Cascodeur Podcast, épisode 105. Tu testeras, mais quand il faut. Enregistré le 23 juin 2014.
Bienvenue à l'épisode 105 des Cascodeurs. Bizarrement, c'est pas Emmanuel Bernard qui dit ça. C'est Agnès Crépet et je suis accompagnée de plusieurs personnes qui vont se présenter puisqu'aujourd'hui, on est à un épisode Cascodeur proposé par les Duchesses. Donc avec moi...
Effectivement, il y a Amira Lacal aussi.
Il y a Ludwin Probst.
Et Mathilde Lemay.
Ok. Alors de quoi on va parler aujourd'hui les filles ?
Alors, la première catégorie, ça serait les news au niveau des langages.
Ouais.
Ouais, ensuite, on va parler un petit peu, on va revenir sur différents débats qui ont eu lieu ces dernières semaines.
On va avoir une phase sur les startups aussi.
Et puis, on terminera sur les conférences avec les CHP qui sont ouverts et puis juste les conférences à venir.
Ok. Bon, faut qu'on se laisse un petit peu le temps de d'être un peu plus à l'aise. Eux, ils ont plus l'habitude, hein, les garçons. Voilà, donc c'est parti pour une heure, voire un peu plus de discussion avec nous. Alors, pour préparer cet épisode, eh bien, on s'est un peu plongé depuis le début du mois de juin sur différentes news. Donc, comme on l'a dit, sur différents sujets, langage, outils, framework, etc. Et puis, on va en parler un petit peu pendant ce temps, pendant cette heure. Alors on va démarrer par les langages. Il y a une news qui est sortie alors début juin, j'ai plus la date exacte, autour de Groovy et d'Android. Cédric Chompeau, donc un committeur de Groovy, pendant une des conférences Groovy Europe, a fait un merge de pull request en live qui a officialisé donc le support de Groovy pour Android et c'était quelque chose qui était attendu depuis très très longtemps. Alors, a priori, le support officiel, il va être annoncé qu'à partir de la version 2.4. Aujourd'hui, on est encore en 2.3 de Groovy. Et la tâche n'a pas forcément été très simple pour eux, de ce que j'ai compris. Puisque, en fait, donc à la base, Android n'utilise pas le même bytecode que la JVM. Et Groovy, lui, est un langage qui, du fait d'être hautement dynamique, on va avoir potentiellement des classes qui vont être générées à l'exécution. Et du coup, ces classes-là, elles vont pas pouvoir être nativement interprétées par la JVM d'Android, par Dalvik. Et du coup, c'est ce qui a été compliqué pour eux, de ce que j'ai compris. Il y a un post qui est assez bien expliqué, qui a été écrit par Cédric sur ce sujet. Donc il explique tous ses soucis, ce par quoi ils sont passés. Ils ont aussi eu des soucis, je crois, sur l'outil de build, qui est Gradle, sur les plugins, le plugin Android par rapport à celui qui est utilisé pour Groovy et Java. Bref, ils y sont arrivés et je crois que ça a enchanté la communauté Groovy. Donc bientôt, on va pouvoir écrire des applis Groovy sur Android.
Je pense que Guillaume serait ravi, là.
C'est
Groovy, Groovy va gouverner le monde. Là, ça commence à être dans le secteur mobile et tout, donc c'est cool. Je pense qu'on va continuer avec les news côté mobile aussi. Donc, il y a eu effectivement début juin aussi la Worldwide Developer Conference à San Francisco. Donc là où Apple a fait les grandes annonces pour cette année. Donc, il y a eu la première annonce qui est effectivement le nouvel OS X qui s'appelle Yosemite, qui est pour Mac.
Mais ouais, mais surtout, je sais pas, ça, vous avez dû voir passer l'info sur Twitter, ça a pas mal buzzé. Il y a eu la sortie d'un nouveau langage et ça s'appelle Swift.
Effectivement, t'as raison, Ludwine. Ouais, Apple a sorti le langage sur lequel elle a travaillé pendant la boîte a travaillé pendant 4 ans. Donc Swift, son objectif, c'est de remplacer effectivement Objective-C et donc il sert à coder les applications sur iOS. Et bien sûr, c'est un langage effectivement qui est fortement statiquement typé, qui est destiné pour Cocoa, qui est l'API native d'Apple, pour les développements orientés objets bien sûr. Swift, c'est quoi les caractéristiques qu'ils ont citées? Qu'il était multi-paradigme, Ouais, il est orienté objet, fonctionnel,
impératif, ouais.
Exact, voilà. Il s'inspire de plusieurs langages, d'Objectif-C, du Haskell, du OCaml, de Scala notamment. Donc, ce qui est intéressant effectivement dans ce langage, c'est que on a remarqué que la syntaxe était plus simple, elle est concise. Ce qui est assez ça facilite effectivement le démarrage si on veut s'initier au développement iOS.
Ensuite, apparemment, d'après les premiers benchmarks, Swift n'est pas forcément aussi rapide que le prétend Apple. Alors, je sais pas si t'as... Je crois qu'il y a eu plusieurs posts là-dessus.
Ah oui, j'ai vu la news
voilà.
Oui, voilà. Il y a un chercheur finlandais, développeur, qui a posté effectivement des mesures de perf, etc. sur Stack Overflow. Donc, il a fait un post assez détaillé où il a pris quelques exemples et il a vu effectivement qu'il y avait une très mauvaise performance pour le langage Swift. Il a effectivement vu que c'était dû à un obstacle au niveau d'une tâche très simple qui était le tri d'un tableau. Donc effectivement, après, voilà, on peut dire que Swift, ça reste un langage assez jeune. C'est peut-être pour ça. Il faut lui laisser peut-être le temps de mûrir un peu. Ça reste une version bêta. Donc effectivement, si on veut s'initier à Swift, on pourra pas effectivement soumettre des applications parce que le Xcode final, il est prévu pour l'automne prochain, donc voilà. Mais c'est quand même prometteur comme langage.
Ça te fait envie, Mathilde, toi qui bosse pas mal sur la mobilité?
Non, moi je fais que du bridge en fait, c'est-à-dire j'utilise d'autres outils qui me permettent de développer à la fois pour Android et pour iOS. Je fais pas du dev natif, donc moi ça me touche pas beaucoup.
D'accord, ouais. Donc du coup, mais tu vas peut-être prendre le temps de regarder un jour.
Un jour peut-être, mais pour ce que je fais, le bridge c'est bien parce que franchement, développer deux applications, faut vraiment avoir un besoin. Pour l'instant, j'ai pas le besoin. Que pour l'instant non. Mais c'est sûr que c'est important de voir le fait qu'Apple cherche à améliorer parce que Cocoa, il y avait quand même pas mal de problèmes dessus. Donc c'est vrai que c'est important de voir qu'ils vont dans ce sens-là. Je pense que pour moi, il y a d'autres news qui ont été plus marquantes que celle-là sur cette conf-là.
Et quoi, par exemple? Du coup, c'est quoi qui t'a marqué, toi?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est TestFlight. Donc, ça dit peut-être rien à ceux qui font pas de dev mobile, mais en fait, il y a un gros problème avec Apple, c'est comment est-ce que je bêta-teste mon appli? Et ça, c'est un vrai problème parce que on était bloqué en fait. Et donc, il y avait un processus quasiment inexistant chez Apple. Il y avait TestFlight, donc qui était une start-up qui proposait un système, mais qui était un peu compliqué, mais qui marchait, donc on est beaucoup, beaucoup de développeurs à l'utiliser. Simplement, TestFlight a été racheté en février par Apple. Pour moi, c'était une grosse, grosse, grosse surprise. D'ailleurs, ça s'est vite vu que la semaine suivante, ils ont arrêté ce qu'ils proposaient pour Android. Ce qui est normal, hein, c'est racheté par Apple. Et donc là, la grosse news, c'est que Apple va refaire tout son système de bêta-testing pour ne plus qu'on ait à identifier chaque utilisateur, chaque device. Ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup mieux pensé, et je pense que ça, vraiment, en tant que dev, ça va nous changer la vie. Parce que la phase de bêta-testing, elle est vraiment primordiale avant de sortir une app sur le marché.
D'accord. Et on faisait comment avant, du coup?
Avant, on faisait pas. Ou alors, on utilisait des solutions comme TestFlight. Je pense que TestFlight, c'était vraiment la solution la plus utilisée. Moi, je l'utilise, ça fait très longtemps, et la plupart des développeurs que je connaisse l'utilisent également. C'est vraiment l'outil qu'on utilisait. C'est pour ça que c'était plutôt une très bonne nouvelle. Dommage pour Android, mais tant mieux pour iOS.
Effectivement, ouais.
Bah justement, on reste dans Android, enfin dans le mobile, hein, avec la mort de Dalvin, Agnès.
Ouais, alors la mort, voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais entre le 18 et le 19 juin dernier, il y a eu du gros buzz sur Twitter, parce qu'en fait, il y a eu un commit sur Android qui était un peu particulier, deux commits en fait. Le premier, il supprimait Dalvik, donc qui est la JVM actuelle Android, et le second, il proclamait Art, donc une nouvelle machine virtuelle pour Android, comme étant la machine virtuelle par défaut. Donc voilà, ça a beaucoup buzzé autour de ça. Alors bon, moi je suis pas du tout spécialiste d'Android, tout ce que je sais c'est que, bon, avant, je crois, la version 2.2 d'Android, Dalvik c'était pas super au niveau Optime en fait, donc Dalvik se contentait en gros d'exécuter du code et les perfs étaient pas super, et c'est à partir de la version de Froyo, donc la 2.2, qui a le principe de la compilation Just-in-Time qui a été repris, et du coup qui a permis un peu d'améliorer les performances Android. avec une empreinte mémoire plus faible, une limitation de l'espace physique, etc. Et à partir de la une des dernières versions, la version KitKat, la 4.4, il y a cette fameuse nouvelle machine virtuelle qui est apparue, donc de son nom ART. Et là, le mode de compilation, c'était plus du just-in-time, mais du ahead of time. Et en gros, ça signifiait que le bytecode en fait d'une application, il est compilé en langage machine lors de son installation. Donc du coup, ça peut vouloir dire que les applications peuvent gagner fortement en fluidité, puisqu'en fait, on n'aura plus le code ne sera plus compilé à l'exécution, quoi. Voilà. Donc ça peut vouloir dire que on aura des améliorations d'exécution des applications Android. Après, il y a eu, donc suite à cette annonce, il y a eu des liens sur des articles de quelques mois, des benchmarks qui ont montré que les résultats de perf n'étaient pas non plus si flagrants et en faveur de ART. Voilà, donc les gens étaient un peu surpris et pas forcément. Il n'y a pas eu un engouement massif en disant c'est super, ART va devenir la nouvelle machine virtuelle. Voilà. Beaucoup disent que les temps d'installation vont être plus importants parce que le code est compilé à ce moment-là. Et pour ceux qui connaissent le développement Android, bah, les temps de déploiement vont prendre un coup, et ça c'est pas une super nouvelle, voilà, pour les développeurs qui ont besoin de déployer souvent une application. De plus, certains disaient aussi qu'avec ART, l'empreinte mémoire à l'exécution va être plus grande, parce que c'est toute l'application qui doit être chargée, donc potentiellement on pourra exécuter moins d'applications simultanément. Enfin bon, bref, voilà, donc suite à cette annonce, il y a eu pas mal de débats et d'échanges sur les forums. Et voilà, l'engouement a pas été si grand que ça. Donc on verra ce qu'ils annoncent avec Android 5, mais voilà, à voir si plus personne utilise Dalvik d'ici quelques mois. Moi, j'y crois pas trop. Voilà.
Ben voilà, ça conclut la première partie. Je crois qu'on va passer à la sortie des outils framework. Alors on va parler un petit peu de DevOps, de Docker, de Spring Boot, Spring Cloud et c'est Croaker. Alors je crois que c'est Amira qui voulait parler de DevOps. Hein.
Effectivement, c'est un peu à la mode en ce moment. Donc, il y a les développeurs qui se mettent un peu plus à s'intéresser au DevOps en général, etc. Et là, la news qui nous intéresse pour cette période-là, c'est la sortie du manifeste DevOps. Effectivement, avant, on n'avait pas de manifeste ou de définition. Il y avait quelques entreprises qui s'intéressaient plus ou moins au DevOps et puis publiaient leur propre manifeste, etc. Sauf que là, il y a eu vraiment une collaboration entre certaines personnes très réputée dans ce secteur, donc notamment il y a eu Nicole Forsgren, que je écorche pas son nom, Velasquez, une professeure et chercheure de l'Utah, Jane Kim, qui est un DevOps enthousiaste et qui a fondé aussi Tripwire, un logiciel permettant de s'assurer que les fichiers sensibles sont pas modifiés sur les machines, donc c'est très connu d'ailleurs, et qui a écrit aussi, qui a co-écrit plutôt, un ouvrage sur la matière qui s'appelle The Phoenix Project. Il y a aussi Jess Humble, un co-auteur de Continuous Delivery Lean Enterprise, qui a participé à cette étude, ainsi que Puppet Lab. Et donc, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont fait un sondage auprès de plus de 9200 personnes autour du monde pour couvrir un large panel de métiers et d'organisations. Et donc, ils ont essayé, à partir de ce sondage-là, de mesurer un peu la performance de l'IT, du business, de l'organisationnel, de certaines pratiques, telles que l'intégration continue, l'automatisation des tests, etc. Et puis, voilà, ils ont essayé, à partir de ce sondage-là, de faire une synthèse et d'en faire un manifeste. Donc, on peut le trouver, d'ailleurs, sur le site du puppetlabs.com. Donc, on peut le télécharger, il suffit juste de remplir un petit form. Et puis, voilà, il est disponible. Le PDF, il contient une trentaine de pages, donc c'est très facile à lire. Il est très très bien détaillé, moi je trouve. C'est une très belle synthèse. Ils ont même fait une synthèse des gens qu'ils ont interviewés, donc ils ont sondé. Donc on voit un peu la répartition dans le monde, dans les secteurs, dans les organisations, etc. Ils ont énuméré les différentes pratiques, les métriques qu'on utilise, etc. Que ce soit des pratiques au niveau de l'organisation ou de la performance IT. Donc franchement, c'est un très bon ouvrage, même si on n'est pas DevOps, c'est très intéressant de regarder un peu qu'est-ce qui marche ailleurs, pourquoi telle ou telle méthode marche mieux, etc. Et C'est très enrichissant.
Il y a des outils qui sortent en tête ou pas dans ce rapport? Il y en a qui...
Ils n'ont pas essayé de mettre en avant. Même si c'est Puppet Lab qui publie le sondage, non, on restait assez neutre. C'est vraiment théorique. Ils n'ont pas mis en avant un outil ou un autre.
Et la communauté, elle a trouvé une initiative intéressante. Il y a eu des réactions par rapport à ça?
Bah, les premiers retours, ils ont l'air d'être assez positifs. Donc, je sais pas, c'est vraiment très récent. Donc, on attend un peu... avant de voir s'il y aura plus de buzz que ça.
D'accord.
Moi, j'ai parcouru, disons, Diagonale, et je trouvais le rapport assez intéressant à partager. Pourtant, je suis pas obs, hein.
Ok.
Ok. Alors, pour continuer, un petit clin d'œil encore à nos amis de Pivotal. Donc Spring Boot version 1.1 est sortie très récemment. Donc Spring Boot, pour ceux qui connaissent pas, c'est une des réponses de Spring à des frameworks de dev web opérationnels comme Play, Ruby on Rails, etc. De forte productivité, quoi. Et donc l'outil Spring Boot avait été conçu pour vraiment simplifier le démarrage et le développement de nouvelles applications Spring, avec pour objectif, un des objectifs, c'était plus de fichiers de conf. On va remplacer ces fichiers de conf par de la convention. Voilà. Convention over configuration. Bon, dans les plus de cette version, on a du templating pour FreeMarker, Velocity, Groovy, etc. On a un support pour des outils qui vous gèrent les versions de vos scripts de base de données comme LiquidBase ou Flyway, etc. On a un peu plus d'autoconf aussi pour des frameworks de la stack Spring ou WordNetQ. Voilà. En tout cas, ce que je trouve pas mal, c'est l'engouement pour, enfin, l'activité autour de ce framework. Autant Spring Roux, donc c'était pas tout à fait la même chose. Spring Roux, c'était plutôt un outil proposé par Spring dans la stack Spring, mais aussi sur la productivité pour améliorer la productivité des développeurs, mais qui était plus basé sur de la génération de code. Donc Spring Roux était un peu en perte de vitesse, il me semble. Et là, à la première version et même aux versions bêta de Spring Boot, la communauté est quand même bien partie dedans. Il y a eu pas mal de critiques qui avaient été faites sur Spring parce que voilà, il y avait beaucoup de configurations XML qui étaient encore nécessaires sur l'outil jusqu'à il y a pas très très longtemps. Donc la plateforme Spring.io avait été vivement critiquée et Adrian Coyler, il avait assez reconnu en fait tout ça et il avait dit on va essayer d'offrir justement quelque chose qui ne nécessite plus de configuration XML. Et bon, Spring 4 était déjà proposait plein de choses autour de ça, même Spring 3.1 il me semble, on pouvait déjà faire plein de choses avec de la Java config. Et Boot, c'est bien, relève un peu plus le défi et va permettre aux développeurs de gagner en temps de dev. Il y a d'autres choses hein, dans Boot, je suis pas non plus spécialiste, mais ça permet aux développeurs aussi de plus faire certains imports, etc. Et en tout cas, la communauté a assez bien réagi. Voilà. Donc j'invite chacun et chacune à aller voir cet outil, la dernière version qui est sortie il y a quelques jours, et de le tester. Voilà.
Merci. Alors tu voulais peut-être parler de Spring Cloud?
Alors, Spring Cloud. Je vais pas en dire grand chose. J'ai juste vu que c'est sorti aussi récemment, là, en début juin. Donc Spring Cloud 1.0, donc première version stable. Alors qu'est-ce que c'est que Spring Cloud? Bah moi ça me rappelle un peu Spring Data. Spring Data qui vous permet d'avoir une couche d'abstraction commune pour de multiples sources de données, qu'elles soient relationnelles ou NoSQL. Et ben vous avez un peu la même chose, un peu le même type d'outil pour du cloud. Donc en gros, toujours pour des applications basées sur la JVM, hein. Donc en gros, les applications vont pouvoir se connecter à différents services cloud, vont pouvoir attaquer plusieurs services cloud, que ce soit a priori pour des applications Spring ou non Spring. Et pour le moment, dans cette première version, je crois qu'il y a un support pour Cloud Foundry et Heroku. Voilà. Et ça peut être étendu vers d'autres plateformes de cloud sous peu, ou c'est déjà fait dans la dernière release qui vont sortir, je crois, pour début juillet. Voilà. Donc à regarder aussi. Donc Pivotal a été assez actif ces derniers jours.
Alors
On remarque ça effectivement. Et j'allais revenir un peu sur le secteur DevOps pour te proposer, Ludwine, de nous parler un peu de Docker.
Oui, alors donc je ne sais pas si vous avez suivi, mais les 9 et 10 juin dernier, il y a eu la toute première conférence DockerCon à San Francisco. Alors c'était un événement qui était entièrement consacré à l'outil Docker. Et puis l'annonce à retenir, c'est la sortie 1.1 de Docker.
Alors 1.0 ?
1.0, pardon. Donc pour resituer les choses, Docker, donc c'est un projet open source, c'est codé en Go et c'est à l'initiative de Solomon Hikes. Alors, qu'est-ce que c'est et c'est pour qui? Alors, c'est un outil qui est dédié aux développeurs et aux sysadmins. Et ça permet de packager une application et toutes ses dépendances dans un conteneur virtuel. Alors, ensuite, ce conteneur, vous pouvez le déployer sur un serveur Linux, que ce soit dans le cloud ou dans une machine locale. Un point important, c'est que Docker, ça repose sur LXC. Donc ça, c'est la technologie du noyau Linux qui fournit un système de conteneurs. Et... si on pourrait se demander, Docker, par rapport à une machine virtuelle, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, une machine virtuelle, ça contient un OS complet. Et en fait, la particularité des conteneurs Docker, c'est que, ils ne s'appuient que seulement sur certaines fonctionnalités des noyaux Linux. Donc ça, c'est intéressant parce que ça leur permet d'avoir un système d'isolation des processus. Et puis, ça, avec cette structure, en fait, Docker est un outil qui facilite la portabilité des applications. Pour finir, je voulais juste dire qu'il y avait un support professionnel qui était disponible. Donc si toutefois vous avez envie de mettre en prod des applications avec Docker. Et puis, plusieurs distributions de Linux incluent directement Docker. Donc je crois que CentOS, Ubuntu et Red Hat le font. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Amira.
Amira, non, mais moi, je vais rajouter quelque chose.
Vas-y.
Sur Docker, il y a également un nouveau framework qui vient de sortir, c'est Clocker. Clocker, c'est trop hype. Ça vous réunit à la fois le cloud et Docker dans la même phrase. Le truc, en fait, c'est vraiment de gérer un cloud, de gérer donc un cloud donc virtualisé avec des instances Docker. C'est basé sur Apache Brooklyn. C'est un truc qui se faisait déjà depuis quelques mois avec Docker, mais voilà, là c'est un vrai outil qui vient de sortir, qui est supporté par une boîte, qui permet donc effectivement de provisionner des machines de manière intelligente en fait. Et c'est tout. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, mais je pense que ça peut être utile de jeter un coup d'œil pour ceux qui veulent faire du Docker dans le cloud. C'est peut-être l'endroit où il faut regarder.
Effectivement, ouais.
Ok, alors je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai halluciné sur la rapidité des orgas de la conf, là, DockerCon, sur la mise en ligne des vidéos, en fait. Y a un pote à moi, là, Cédric, qui est fan de Docker, et quelques jours après la conf, il a bouffé toutes les vidéos en quelques nuits parce qu'elles sont toutes sorties en même temps, donc voilà, c'est assez classe.
Ça te fait rêver pour Mixit?
Ouais, on en est loin. On en est loin. Non, franchement, c'est bien la classe. Donc, si jamais vous n'étiez pas à San Francisco le 9 et le 10 juin, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de la DockerCon et vous pourrez visualiser toutes les vidéos qui vous branchent. Voilà. Donc, j'y étais pas et j'ai pas regardé encore les vidéos, mais je crois qu'il y avait un talk de Jérôme Petazzoni, qui travaille sur Docker, donc qui était assez impressionnant a priori, et un autre de Evan Braun, voilà, d'Amazon, qui a priori était aussi bien classe. Voilà, en tout cas, je vous invite à aller voir leur site. Ensuite, alors oui, une petite news qui est passée la semaine dernière sur Twitter. Donc Adi Osmani. Adi Osmani, je pense que c'est un gars aussi assez hype, qui devient assez connu. C'est un mec de la team Chrome chez Google. C'est quelqu'un qui a été assez actif sur jQuery et c'est surtout quelqu'un qui a co-fondé avec d'autres personnes l'outil Yeoman, voilà, pour Angular. Donc, enfin, pour les applications web, vous pouvez. C'est une suite d'outils Yo, Grunt, Bower, etc. pour démarrer facilement des applications. Et donc bref, cet Adi Osmani a sorti une news autour d'un Web Starter Kit Google. Donc en gros, Google propose un nouvel outil à destination de tous les développeurs web multiplateformes, une sorte de starter kit pour démarrer plus rapidement un projet. Donc a priori, C'est un starter kit qui est basé sur le fameux template HTML5 boilerplate. Alors je crois que ce template-là, d'ailleurs, il avait été proposé par Paul Irish de Yeoman, justement, et une fille, je le souligne, Divya Magnan. Voilà, donc autour de ce starter kit, on a ce template HTML5, on a tout un tas de bonnes pratiques en termes de performance, de compatibilité internavigateur, de JavaScript, etc. On a une partie de doc qui vient compléter le site Web Fundamentals qui est déjà disponible et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour quand vous codez des pages web pour le support mobile, la partie responsive, l'optimisation des performances web, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Dans les fonctionnalités, à quoi ça ressemble ce Web Starter Kit quand vous le téléchargez, vous avez le template HTML boilerplate, vous avez tout un tas de guides, vous avez un outil de build basé sur GubJS qui est une alternative à Grunt. Vous avez de quoi optimiser vos images, vous avez des indications pour tout ce qui est minification, JavaScript, CSS, HTML, etc. De quoi faire vos rapports de performance avec PageSpeed, Insights, etc. Voilà, donc il y a plein de choses, à mon avis, intéressantes à lire pour celles et ceux qui font du développement web. Voilà, je vous invite à regarder ça et à le télécharger.
Ok, dans les news, il y a aussi dans le monde du NoSQL, il y a la sortie de la version, d'ailleurs il y a eu deux versions en 10 jours, de la version 1.1.1 de Redison, qui est le client, le Java client driver de Redis. Donc ouais. J'ai dit qu'il y avait eu deux versions, il y en a une qui est sortie le 7 juin, donc la 1.1.0, où il y a eu effectivement beaucoup de fixes et des features, et puis il y en a une qui a succédé en 10 jours. La 1.1.1 avec effectivement deux autres fixes qui sont rajoutées, une feature aussi. Donc je vais pas détailler les fixes, on pourra les retrouver sur les sources du projet qui sont sur GitHub. Après parmi les features, il y a une feature qui nous intéresse qui m'a intéressée fortement, donc c'est celle qui est relative aux appels non bloquants asynchrones. Donc effectivement, ils ont mis en place enfin les méthodes qui permettent de récupérer d'une manière asynchrone. Il y a le get async, le put async, remove async, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Il y avait Cassandra qui l'a fait il y a quelques temps, et puis MongoDB aussi. Donc il était temps pour Redis de rejoindre un peu ses compagnons NoSQL et d'avancer sur ce pas-là.
Cool.
D'ailleurs, tant qu'on reste dans ce monde-là, on va parler aussi d'une annonce qu'a faite Facebook le 11 juin dernier, lors de la QCon à New York. Donc en fait, ils ont annoncé eux aussi une nouvelle base de données NoSQL. Facebook qui fait encore la révolution. Donc l'annonce, elle a été faite par Jeff Johnson, et il a été ensuite interviewé par InfoQ. Donc j'avais regardé un peu le post qui a été fait sur InfoQ sur le sujet, pour en apprendre un peu plus. Donc pour résumer un tout petit peu, c'est quoi Apollo en gros? Qu'est-ce qui la distingue des autres bases de données? En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Apollo, c'est une base de données qui cherche, en gros, en plus de stocker en tant que clé valeur, de représenter les données en tant que map, queue ou arbre de tri. Donc, c'est ça qui est vraiment différent. Ce qu'il faudrait aussi qu'on retienne dans cette solution, c'est que le mode de fonctionnement, il est en shard. Il est très similaire d'ailleurs à celui de HBase. Donc ils ont un peu structuré le shard en 4 composants. Ils ont mis en gros dans le premier composant le protocole, donc le Quorum Consensus Protocol, qui se base sur Raft, l'un des leaders des consensus protocoles. Donc en gros, la deuxième partie, ils ont fait le storage, donc l'écriture, qui se base aussi sur RocDB, qui est une base de données clé valeur, utilisée pour faire du stockage assez rapide. Une partie, effectivement, avec l'API client pour tout ce qui est lecture et écriture, donc les commandes read and write. Et la dernier composant, c'est forcément pour les pannes, donc pour contenir le Fault Tolerant State Machines, le FTMS, SM plutôt. Et voilà, donc l'idée d'Apollo, c'est effectivement un peu de remplacer la solution en Memcache. Je pense que ça va plaire à Mathilde. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'arriver au final à gérer en priorité les files, mettre en place des files d'attente en ce qui concerne les messageries, donc les messages qu'on voit Facebook vers les terminaux mobiles, iOS, Android, ou avec les conteneurs qui envoient via SMS. Et donc potentiellement aussi pour des besoins d'analyse et d'analytique. Analyse analytique plutôt. Donc ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que Apollo, ça reste encore en cours de dev. On n'a pas les sources, donc on peut pas, il s'est pas encore partagé en tant que projet open source. Donc c'est un peu une solution qui émerge, mais pourquoi pas, ça aura peut-être du potentiel vu le passé productif de Facebook avec la solution Cassandra qu'on a vu dans le passé. Donc moi j'attends beaucoup d'Apollo, donc j'attends la suite. Voilà.
Et c'est pas open source, hein, c'est ça?
Non, pas encore. Ils ont pas encore partagé leur solution. C'est en cours de dev.
C'est pas open source et aussi ils l'utilisent pas encore en interne.
Exactement. C'est pas en prod. C'est pas utilisé en prod. Donc, c'est vraiment.
Faut attendre encore un petit peu.
Mais exactement, ouais. Donc voilà, mais c'est prometteur.
Ah ouais. C'est plutôt sympa. Ok. Du coup, on a terminé avec la partie news, sortie, framework, etc.
Yep.
On va pouvoir passer à la partie débat. Pour débattre. Alors, on va se servir d'un sujet de débat qui a enflammé un peu
Twitter
le web récemment. Ouais, voilà. Un débat, donc Amira, t'as regardé un peu ce qui s'était passé. Un débat à la base entre Martin Fowler-Kennebec et un David quelque chose.
Exactement.
Le mec de je me prononcerai pas son nom.
Moi non. Voilà, DHH, c'est plus simple, c'est vrai. Effectivement, il y a eu un débat qui a été lancé par DHH sur le TDD. Donc lui, il a prétendu que pour lui, le TDD était mort, que voilà, il y avait plusieurs raisons. Voilà, il a listé ses raisons, bien sûr. Ce débat, il a été en broadcast, en live broadcast pendant, je sais plus combien de séances il y a eu, 4 en tout, si je me trompe pas. Moi, j'en ai suivi 2. Parce que je suis pas forcément d'accord sur les avis qui sont, les opinions qu'ils avaient. Donc, ça m'a un peu gênée. Je suis une TDD forever, moi. Donc, voilà. Et puis, ils ont listé leurs raisons. Ils ont pas forcément donné de conclusion directe à la fin. Chacun a donné un peu sa version. Oui, fallait pas toujours faire du TDD, fallait faire de telle manière, etc. Donc, l'idée, là, c'est effectivement de vous poser à vous les questions. Voir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que, pour vous, le TDD, c'est plus l'avenir? Est-ce que effectivement c'est assez long et pénible de mettre en place des tests unitaires pour des méthodes qui vont par la suite évoluer, devenir complexes? Ça serait pas plus performant de mettre en place des tests d'intégration, je sais pas.
Ouais, en gros c'est ce qu'il dit, hein, le fameux DHH, le fameux David, on va dire David. Ouais, en gros il dit, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas regardé les vidéos, mais j'ai lu les retranscriptions, et en gros il dit dans les critiques fortes qu'il fait sur TDD, il dit le fait de trop se focaliser sur les tests unitaires, ça permet d'oublier, enfin ça nous fait souvent oublier les tests d'intégration, les tests système. Pour moi, c'est pas une raison suffisante pour dire que TDD est mort, quoi. C'est ça le souci, et tout le débat un peu obscur et pénible qu'il y a eu derrière se focalisait beaucoup là-dessus, quoi. Les gens qui disaient oui, non, mais c'est pas pour autant qu'on peut dire que TDD est mort, et d'autres qui disaient oui, mais bon, le fait de trois puits TDD, ça nous fait oublier test système. Voilà, je trouve que c'était ça qui était un peu dommage dans les débats qui ont suivi, ce qui était d'ailleurs le plus intéressant, hein. Les débats, je veux dire, qui ont suivi, c'est le fait que le débat s'est fait beaucoup polluer par cette question, quoi. Voilà. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que je suis amenée, enfin, je sais pas vous, mais quand je développe, je fais aussi bien du test unitaire que du test d'intégration. Je le fais pas au même, éventuellement au même moment, mais voilà, c'est deux pratiques que j'ai, quoi. Voilà.
Et qui n'ont pas du tout le même objectif, en fait.
Ouais, tout à fait, ouais.
Quand tu fais du TDD, tu es pas en train de faire ton test d'intégration, c'est complètement autre chose, donc c'est pour ça que moi j'ai pas suivi, ça m'a pas beaucoup intéressé. J'ai regardé la première, je crois, et j'ai lâché en chemin parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de lieux communs, beaucoup de choses sur lesquelles on était déjà au courant. Oui, TDD, ça s'applique pas forcément à tout, ça s'applique sûrement pas non plus à tout le monde, mais que voilà, fallait pas être dogmatique, et c'était un outil parmi d'autres, et qu'il fallait utiliser, c'est une manière de programmer parmi d'autres, et il faut utiliser celle la plus efficace en fonction de son projet, et pour ça on est assez intelligent pour décider, nous, sans s'imposer ça pour tous les projets, ou pour justement ne pas se l'imposer.
Ouais. Il y a Oncle Bob qui a plutôt bien réagi, donc Oncle Bob Robert Martin, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc quelqu'un qui a fait plein de choses autour du Gin logiciel.
Clean voilà. Code.
Ouais, voilà, exactement. Et lui, il dit, bon, voilà, il prend la défense du TDD, et il dit, voilà, ça, c'est deux activités différentes. Le fait de faire du TDD, bah, forcément, on va moins débugger. Le fait de faire des tests unitaires, ça nous permet aussi d'avoir une documentation exacte et précise, au niveau de votre code. Enfin, voilà. Il a donné des arguments, évidents qui ont un peu clos, certains débats certaines discussions qui n'en terminaient plus. Et voilà. Après, il y a eu en France, il y a eu le je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, le fait de lancer ce mouvement qui s'appelait le NoMock Movement. Vous vous souvenez de ça?
Moi.
Oui. Moi oui.
C'est quoi? C'est qui? Oui. Ouais. C'est qui a lancé ça?
Je sais plus qui c'est qui a lancé ça.
Il y avait pas Antonio dans le lot?
Ouais, il y avait Antonio, je crois. Ouais.
Je sais pas, peut-être je me trompe, mais.
Ouais,
c'est pareil, le mock, il y a des moments où c'est pas utile, enfin, tout moquer, sans repenser à ce qu'on fait ou si t'as 7 couches et que tu te mets à moquer tes 7 couches, il y a d'autres moments où tu risques de perdre plus de temps à maintenir tes mocks et est-ce que ça a toujours, une valeur ajoutée pour ton projet?
Exactement.
Ça dépend. Voilà. Il faut pas utiliser aucun dogme comme ça de manière bête et méchante. Faut à chaque fois réfléchir. Alors quand on apprend, je pense que pour comprendre ce que c'est que TDD, il faut effectivement essayer de devenir un puriste et le faire à fond pour comprendre. C'est pareil pour les mocks. C'est pas forcément hyper utile d'avoir des mocks partout. Ça, il y a des projets où ça va être très utile, il y a des projets où ça va être moins utile, et des projets où ça va être carrément pas essentiel. Et c'est au développeur de décider ce qu'il veut faire, à l'équipe de dev.
D'ailleurs, ça me fait penser à la presse que t'avais fait, Agnès, à l'Evoque cette année, où tu parlais des tests, et je crois que t'avais parlé un petit peu de ce sujet aussi, de mocks, qui étaient bien souvent trop utilisés.
Ouais. Disons que, en fait, le problème, enfin, quand le NoMock Movement est apparu, bon, bah, je trouvais ça bien qu'on se réinterroge sur l'utilité de faire des mocks, ce que tu dis, Mathilde, voilà, pourquoi on fait à chaque fois, pourquoi on fait un doc, donc, voilà. Après, je suis pas pour le fait de tomber dans le sens inverse, à savoir ne plus du tout en faire. Ce qui est sûr, c'est que dans l'état actuel des choses, quand on regarde un peu le code d'aujourd'hui, enfin de beaucoup de personnes, dont le mien à une époque, hein, on a tendance à pas forcément bien utiliser les mocks. Les premiers frameworks de mock, Gmock, EasyMock, etc., nous invitaient à faire beaucoup de strict mock, donc qui, par défaut, nous poussent à faire des tests boîte blanche, donc à tester, par exemple, le nombre de fois que votre composant à mocker est appelé, etc., dans quel ordre, etc. Et du coup, votre test unitaire, il devient en adhérence totale avec l'implémentation de votre composant à tester. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que du coup, à force de faire trop de mocks stricts, et ben du coup, on a des tests qui deviennent très compliqués à maintenir. Voilà. C'est ce que je disais un peu dans la presse. Voilà.
Ouais, c'est ce qu'on appelle le test de comportement et le test d'état.
Exactement.
Et c'est pareil, il y a les deux et il faut utiliser les deux en se posant des questions et pas ne faire qu'utiliser qu'un ou que l'autre.
Exactement. Exactement. Donc si je reviens un peu sur le sujet de TDD, c'est ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'il faut savoir, le TDD ça reste une très bonne pratique. Après on peut faire évoluer les tests s'ils deviennent au fur et à mesure obsolètes, de les faire évoluer vers un test d'intégration un peu plus complet, ça simplifiera effectivement la maintenance d'un test. Ou s'il y a des comportements qui changent pas, autant maintenir les tests unitaires, quoi. C'est vraiment une pratique assez bien à garder. Donc ça sert à rien de faire évoluer ou d'enlever complètement cette pratique.
Tout à fait. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que le fait de dire que TDD est mort, c'est plus la peine d'en faire, ou que les mocks ça sert à rien, faut plus en utiliser. Voilà, c'est beaucoup trop extrême pour moi. Je suis plus partisane du fait de dire voilà, on en utilise quand on en a besoin et en fonction de nos contextes. En tout cas, me concernant, au niveau des tests unitaires, je ne sais pas développer sans. Voilà, ça c'est sûr.
Donc pour moi, le TDD n'est pas mort.
Exactement. Ok. On a un autre sujet aussi, sujet à débat. Ludivine,
oui,
je crois.
Oui, alors c'était Speed in Software Development. C'est un sujet qui nous a été suggéré. Alors, ouais. Voilà, là c'est un poste de Michael Dubakov, qui est fondateur de Target Process. Et, alors dans ce poste, il s'intéresse à la vitesse, à la vélocité dans un développement logiciel. Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas le tout d'avoir une super équipe avec des développeurs talentueux, un super produit, une bonne vision. Si le rythme de développement n'est pas le bon, n'est pas adapté, si on a des process qui sont trop lents, ça peut juste conduire le projet à être un échec. Alors en fait, ce qu'il fait dans cet article, c'est vraiment un très long article. Hein. Mais déjà, il commence à identifier différents types de développement. Donc il choisit, il oppose le rythme marathon à celui de sprint. Alors comme vous l'aurez compris, le sprint, c'est quand une équipe est sous tension, vous avez des journées de 12 heures, tout se fait dans le rush, vous buvez beaucoup de café et puis au final, vous êtes au bord du burnt-out. Et puis à côté de ça, vous avez plus trop le temps de faire grand-chose à côté dans votre vie et puis vous n'avez même pas le temps de passer du temps avec vos collègues. Alors ensuite, le marathon, pour lui, c'est un rythme beaucoup plus cool, 6-8 heures de boulot par jour. Vous avez du temps pour vous, vous profitez de vos collègues, et ça a l'air d'être vraiment la solution au premier abord, ça a l'air d'être sain et optimal, en tout cas pour le développeur. Et ce qu'il dit, c'est que pour le manager, ça bloque un peu, parce que le manager, il préférait que les choses aillent un petit peu plus vite. Alors là, ce que l'auteur propose, c'est d'alterner ces deux rythmes. Donc il appelle ça un intervalle. Donc l'idée, c'est de dire, pendant un mois, on va être en mode sprint, on va avoir beaucoup de boulot, on va rusher. Et puis, les 2 mois qui vont suivre, ce sera plutôt en mode marathon. Alors, ce qu'il fait ensuite, c'est que il a fait un super graphe, vraiment très 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 complet, pour identifier tout un tas d'éléments qui vont ralentir la vitesse de développement et qui vont la booster aussi. Et puis, il s'est amusé à définir tout un tas de relations entre tous ces éléments. Alors, on va pas pouvoir parler de tout parce que c'est énorme, hein, mais en tout cas, le premier point qu'il prend, c'est les compétences et l'expérience des consultants. Donc en fait, pour lui, ça c'est un élément qui va booster la vitesse de développement. Mais la première question qu'il pose, c'est j'ai une équipe, je vais avoir des stagiaires, j'ai des gens plus expérimentés, comment je fais pour améliorer les compétences d'une personne ? Donc là, il propose plusieurs idées, notamment mettre en place des ateliers internes pour former les gens, donner aussi la possibilité aux personnes d'apprendre, donc leur donner du temps. Et surtout, il insiste sur le fait que quand on recrute quelqu'un, c'est quand même super important de prendre quelqu'un qui va avoir envie d'apprendre, qui va aimer apprendre de nouvelles choses, qui va être curieuse et qui va être passionnée. Alors, je sais pas trop ce que ça vous inspire, si vous avez déjà été confronté à ça dans vos projets. Comment vous vous êtes organisé je vous laisse la parole.
Moi, je vais pas trop répondre à ça. L'article est intéressant. Il est extrêmement long. Il y a un travail de dingue qui a été fait. Mais moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup de portes ouvertes, quoi. Le coup de travailler en mode 6-8 heures en travaillant intensément, enfin en travaillant 6-8 heures normalement et d'avoir de temps en temps des coups de bourre et après de retourner à un rythme plus fluide et en une fois des coups de bourre, enfin c'est moi ce que je fais depuis que je suis sortie d'école quoi. Il y a toujours eu ces deux phases de on travaille 6-8 heures par jour normal et puis un jour on va faire 10-12 heures, ça va durer 3, 4, 5, 6 jours ou une semaine ou deux et puis après on va retourner sur un rythme plus cool, enfin c'est ce qu'on fait tout le long, et en fait, j'ai trouvé que tout l'article est super bien fait, mais c'est que des portes ouvertes, quoi. Oui, il faut acheter les livres que les développeurs demandent, ok. Il faut envoyer les gens aux conférences, ok. Il faut faire des événements internes où les gens peuvent partager, échanger et apprendre ensemble, ok.
Pour toi, c'est que des évidences,
Il y a toute une partie sur la dette technique, ok. C'est très bien écrit, hein. C'est très intéressant. Mais c'est déjà très long, ça va vous prendre beaucoup de temps pour le lire. Et au final, c'est quasiment que des évidences. Par exemple, il y a toute une partie sur les tests qui sont pas stables. Ok, effectivement, ça raccourcit, ça allonge les temps de dev. On est déjà au courant en fait. Et il n'y a pas vraiment de solution. Le seul truc que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un outil dont il parle qui est Slack. Je sais pas si certains de vous l'utilisent. En tout cas, je pense que on va l'utiliser bientôt. Je vais proposer ça. Slack, c'est un outil en fait qui vous permet de centraliser toutes vos communications. Et ça permet d'éviter le dispersement entre ce qui se dit sur Gtalk, ce qui se dit sur Skype ou ce qui se dit sur par mail. Mais pour moi, c'était vraiment le seul petit outil intéressant de l'article, c'était celui-là. Tout le reste, oui, les open space sont bruyants. Plein de choses comme ça. Effectivement, le fait de ne pas savoir exactement ce qu'on doit développer au début, ça ralentit le dev. Pour moi, tout ça, c'est très bien écrit, très bien illustré. Il y a vraiment un gros boulot qui est fait sur l'article. Mais c'est que des portes.
C'est vrai que c'est beaucoup d'évidence, mais malheureusement, je crois que tout le monde n'en a pas toujours conscience, en fait. Et je pense que ça vaut le coup de le rappeler. Parce que...
Effectivement, peut-être...
Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je suis déjà tombée dans ce genre de situation où on avait des process extrêmement lourds, on perdait énormément de temps, on avait des problèmes de productivité, et les gens étaient fermés aussi au changement, ils s'étaient enfermés dans cette façon de fonctionner, et n'avaient pas la conscience, en fait, de tout ça. Donc même effectivement, si il parle de choses évidentes, je trouve que ça a du sens quand même d'avoir écrit cet article et de le lire.
Ce que j'allais dire, c'est que pareil que Ludivine, moi j'ai eu une expérience pareille. Après, j'ai pas eu le même. J'ai connu les solutions, j'ai essayé de les mettre en place, etc. Mais effectivement, il y a peut-être des gens qui connaissent pas un peu qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour remédier à ces problématiques-là de production, de développement, de manque de compétences, je sais pas, ou de communication en interne ou de process d'ailleurs. Donc c'est peut-être intéressant d'échanger, de rien qu'avec un article sur ce sujet-là et proposer notamment des solutions, je sais pas, des pratiques.
Je rappelle.
De toute façon, que je suis pas d'accord sur un truc, ouais. C'est que il n'existe pas une solution utopique qui marcherait partout. C'est qu'il faut à chaque fois, selon le contexte, le projet, le process, le cadre, etc., l'équipe d'ailleurs,
oui.
Bah, adapter cette solution-là et trouver la solution pour l'équipe, mais pas une solution générique, ça n'existe pas, ça.
Mais c'est pour ça que je trouve intéressant le fait qu'il fasse un graphe dans lequel il identifie, en fait, pour lui, tout ce qui va pouvoir booster l'équipe ou le ralentir. Et je pense que ça, ce serait peut-être quelque chose à faire au sein d'une équipe, identifier les points forts de l'équipe, les points faibles, et essayer de travailler dessus pour améliorer la vitesse de développement, en fait. Moi, ça me semble...
Voilà. Si on prend chaque point séparément, je sais pas, le fait d'avoir une équipe hétérogène, voilà, les compétences sont pas pareilles. D'ailleurs, c'est au contraire, pour moi, c'est une richesse. C'est que, voilà, faut mettre en place des pratiques pour que chaque personne devienne polyvalente. Qu'on monte tous en compétences et qu'on arrive à échanger. Donc, je sais pas, des pratiques comme du pair programming, on peut faire, je sais pas, entre midi et deux, des séances, des katas, etc., pour que tout le monde se mette d'accord et puis, voilà, ils montent en compétences sur certaines pratiques. Donc, il y a plusieurs solutions. Je sais pas.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cet article a été écrit. Donc, pareil, hein, je pense qu'il est, en fait, je suis d'accord avec vous trois. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de portes ouvertes. Bon, il enfonce beaucoup de portes ouvertes et en même temps, je pense que c'est utile. Après, j'ai l'impression, quand je l'ai parcouru, je l'ai pas lu en entier, j'avoue. J'ai l'impression qu'il a été écrit pour des managers de SS2I, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, le gars, il s'est fait chier à écrire un article assez long et détaillé, bien écrit, etc. pour montrer que tout ça est utile. Alors, ça va pas nous convaincre, nous, potentiellement, parce que nous, voilà, on est dedans, on est au courant, on sait que, pour nous, c'est effectivement ce contexte de travail qui peut nous plaire le plus, etc. Mais, effectivement, on a toutes rencontré certains contextes où on a l'impression que les personnes qui nous encadrent sont pas aussi ouvertes, on va dire. Et voilà, moi, la première sensation que j'ai eue quand j'ai lu ce truc, c'est... bon, ok, il a écrit ça pour les managers de grosses SS2I qui pensent que... Ouais, la rigueur, faire des événements internes de 9h à 11h le soir, pourquoi pas, mais voilà, le reste, acheter des bouquins, envoyer des gens au conf. Envoyer des gens au conf, c'est rare, en fait, hein. Nous, on le voit avec Mixit, moi, je suis partie de l'organe Mixit, la place, elle est à 50€, et il y a plein de gens qui nous disent, bah voilà, c'est la seule conf que je peux faire dans l'année, parce que c'est moi qui me les paye, et je peux pas mettre 300€ dans une conf, et tout ça. Pour moi, 300€ dans une conf, ça reste pas cher, hein. C'est pas le souci, mais bah il y a plein de gens qui se les payent eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, parce que il y a tout un tas d'employeurs, notamment beaucoup de SS2I, qui ont pas compris que c'était bien, quoi, d'envoyer au moins une fois, voire plus, 2-3 fois par an, leurs développeurs ou développeuses à des confs, quoi. Voilà. Donc j'ai l'impression que c'était écrit pour eux. Mais en tout cas, bravo pour l'effort, parce que j'aurais jamais fait ça, quoi.
C'est remarquable. Le travail, ouais.
Et au final, je me demande combien de gens vont lire exactement toutes les lignes.
C'est vrai, ça risque d'être dur.
C'est très, très long.
À la fin, il parle de faire un bouquin, quand même, de son article.
Oui. Ouais, mais il peut sortir, okay, un petit bouquin.
Alors ensuite, on avait un autre débat. Ça concerne, en fait, la diversité, enfin, la présence des femmes speakeuses de conférences. Donc là, c'est en fait, on a été pas mal sollicité ces dernières semaines, Duchesse et individuellement aussi, par rapport au fait qu'il y avait pas beaucoup de femmes speakeuses aux conférences. Donc en fait, ce qu'on remarque nous, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des organisateurs de conférences pour qu'il y ait plus de femmes. Alors évidemment, il s'agit pas d'aller chercher des femmes juste pour qu'il y ait des femmes. Il s'agit d'aller chercher des femmes qui sont compétentes dans leur domaine. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait dire, c'est que nous, Duchesse, on soutenait complètement cette action et on pouvait vous aider de différentes façons, vous, organisateurs de conférences, pour essayer de vous pinguer avec des filles, des speakeuses. Alors, je sais pas, Mathilde, si tu voulais dire un petit peu ce qu'on fait au sein de Duchesse hein, pour ça.
Alors, je crois que Mathilde, elle est partie.
Ah oui, elle est partie, Mathilde est partie. Ok, Amira, tu veux prendre le point?
Ben effectivement, c'est notre combat au sein des Duchesses, donc on essaye de booster un peu plus la présence féminine et les participations des femmes, donc en diffusant l'École for Paper, on propose de les aider, de préparer leurs présentations ensemble, même des entraînements, on fait beaucoup d'entraînements, ouais. D'ailleurs c'est pour ça qu'on parlait de Mathilde, parce qu'elle a pris le lead sur ce point-là récemment, et elle a organisé plein d'entraînements qui étaient très intéressants.
Ouais, on a fait des hangouts.
Soit à distance ou via hangout, effectivement. Donc c'est un message qu'on essaie de passer aux femmes développeuses de l'IT qui nous écoutent, qui n'osaient pas avant se lancer ou voilà passer le cap, qu'elles viennent nous voir, on échange ensemble et on essaie effectivement de trouver un call for paper qui les intéresse et puis voilà pourquoi pas démarrer et devenir speakeuse.
Et puis,
exactement.
Oui, et puis ensuite, ce qu'on voulait dire, c'est que bien sûr, donc vous pouvez vous appuyer sur notre réseau pour trouver des femmes speakeuses. Et puis, ce qu'on remarque, c'est peut-être Agnès, tu veux peut-être parler d'expérience MixIT, la façon dont t'as fait pour trouver des femmes speakeuses. Hein.
Ouais. Alors oui, effectivement, on nous a vachement interrogé là-dessus à MixIT, comment vous faites pour avoir pas mal de filles, etc. Donc on fait pas forcément de la discrimination positive. Hein, on se dit pas bon allez, il nous faut des filles. Au moins 30%, on va en chercher. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on s'appuie sur des réseaux de développeurs, et notamment des réseaux de développeuses qui existent beaucoup dans les pays nordiques, en Europe et aux États-Unis. Et du coup, en fait, ces réseaux-là, donc si je prends l'exemple des filles, ces réseaux-là, font un peu ce qu'on fait ici avec les Duchesses, ce qu'a dit Amira, à savoir, on met en avant certaines filles qui commencent à speaker, on les coach, on leur donne confiance pour présenter des talks, etc. On diffuse ces informations-là parce que en fait, quand vous êtes organisateur de conf et que vous voulez vous faire votre wish list de speakers, donc qui c'est que vous avez absolument envie de voir comme speaker à votre conf, vous vous lancez dans la vaste tâche de mater des vidéos de talk, contacter des gens pour voir s'ils sont dispo, etc. Et quand vous avez envie d'avoir quelqu'un sur un sujet précis et quand la star du sujet est prise, vous commencez à chercher une personne pertinente qui pourrait parler du sujet. Et on se rend compte que il y a certains réseaux, par exemple de filles, qui mettent en avant certaines speakeuses qui sont efficaces là-dessus. Nous, par exemple, on cherchait quelqu'un de Twitter qui puisse parler de scalabilité, des architectures à forte montée en charge, etc. Et je suis passée par un réseau de qui travaille sur la visibilité des filles sur la côte ouest aux États-Unis, par une fille qui s'appelle Dalla Danger, qui fait plein de choses là-bas, là-dessus. Et du coup, son boulot, c'est de mettre en avant des filles pour qu'elles se lancent, et c'est comme ça qu'on a pu choper quelqu'un. Parce que ce que je disais lors du dernier épisode des Cascodeurs, je crois, c'est que quand tu t'appelles MixIT, que t'es une conf de 500 personnes en France, personne en a un peu rien à foutre de ce que tu fais. Enfin, je comprends, hein, on est une petite conf, c'est pas forcément simple d'attirer du speaker quand on est une conf française et pas de plus de 5000 personnes, quoi. Voilà. Donc, ce genre de réseau aide bien. La preuve, on en bénéficie fortement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des gens qui se déplaceraient pas éventuellement autrement.
Donc,
quoi.
Pour conclure, aux organisateurs de conférences, n'hésitez pas à vous appuyer sur nos Duchesses ou d'autres réseaux féminins pour directement contacter des filles. Le message, des fois, ça passe éventuellement mieux. En fait, les filles se sentent peut-être plus concernées, je sais pas, quand elles sont contactées par d'autres réseaux féminins. Voilà. Donc, vous pouvez nous joindre par mail ou par Twitter. Alors ensuite, on passe aux startups. Il y avait quelques annonces, Amira, je crois que tu voulais faire sur des levées de fonds.
Oui, il y avait quelques petites il y avait deux petites annonces sur deux startups. La première, c'est Mesosphère qui a fait une levée de fonds de 10,5 millions. Donc Mesosphère, c'est une boîte basée sur Apache Mesos. Donc ils sont partis sur le principe que la virtualisation, comme elle est faite aujourd'hui avec des virtuelles machines, n'a pas de sens. Donc le sens où la plupart de nos applications sont conçues pour être distribuées. Voilà, ils considèrent que plutôt qu'assembler des clusters séparés sur chacun des services, c'est plus efficace en fait de les réunir, de réunir toutes les machines et de le présenter comme une application, enfin aux applications comme un pool de ressources qui leur permettra de ne pas interférer les unes avec les autres en fait. C'est de gérer la possibilité de gérer dynamiquement les ressources dont ils ont besoin.
D'accord. Et ensuite.
Et la deuxième, effectivement, c'est Lima. Qui a levé 2,5 millions de dollars aussi. Donc pour ceux qui s'en souviennent pas, l'année dernière, c'est une boîte qui a été lancée l'année dernière, c'est une boîte française qui est arrivée dans les 10 plus grosses levées de fonds de Kickstarter. Donc il vient de remettre ça en levant 2,5 millions de dollars de fonds, qui a également été investi dans Oculus Rift, les lunettes de réalité virtuelle qu'on avait vues il y a pas très longtemps d'ailleurs dans la conférence UZI. Donc Lima, c'est une solution de cloud personnel. Donc, vous branchez votre petit boîtier avec votre PC ou Mac d'ailleurs ou autre, et cela vous permettra de partager non par un seul répertoire comme Dropbox, mais par plusieurs, mais l'ensemble de vos contenus en fait. C'est un Dropbox-like. Voilà.
D'accord.
On peut passer à d'autres annonces effectivement. À part les startups, il y a eu des news au niveau des conférences. Il y a eu quelques conférences il y a pas très longtemps.
Oui, alors il y a Google I/O là qui va se dérouler du 26 au 27 juin à San Francisco. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est la conférence annuelle de Google. Donc avec plein d'annonces pour les développeurs sur les technos Google, outils et services. Alors il y a que des rumeurs là pour le moment, mais on s'attend à ce qu'ils parlent d'objets connectés, de maisons connectées, de la smartwatch. Peut-être aussi des annonces sur la prochaine version d'Android. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un billet, sachez qu'en fait, il y a pas mal d'événements qui sont organisés. C'est des Google I/O Extended, donc c'est des retransmissions. J'en ai noté 10, j'espère que j'en ai pas oublié. Donc il y a Nantes, Paris, Lyon, Bordeaux, Angers, Rennes, Brest, Lille, Saint-Quentin et Nancy. Il y a un lien en fait dans Google où vous pouvez retrouver toutes ces informations. Vous tapez Google I/O Extended. De quoi ?
D'accord, ok. C'est pas les Google Developer Group.
Alors certains événements aussi sont organisés par les Google Developer Group, mais tous, je ne suis pas sûre. J'ai pas tout vérifié.
Ok. Alors à mon avis, effectivement, on ne sait pas ce qu'il y aura, mais à mon avis, il y aura forcément des choses sur la domotique.
Ouais.
Hier ou je sais plus quand, là, il y a encore Google et Nest qui ont. Je lisais une news là ce matin qui ont annoncé le fait d'acheter une boîte qui s'appelle Dropcam pour je sais pas combien, 550 millions de dollars je crois. Dropcam, c'est une boîte qui fait des caméras de vidéosurveillance pour les maisons, voilà, ça fait rêver. et du coup voilà, on voit que Google investit à mort sur la domotique quoi. Ça c'est clair, enfin sur tout ce qui est l'équipement des maisons individuelles d'appareils connectés quoi.
C'est l'avenir. Donc,
ouais. Est-ce qu'on se voit avec des caméras de partout chez soi? Je sais pas. Nest, la boîte qu'avait rachetée pour 3 milliards, je crois, un peu plus même, Google, récemment, il y a quelques mois, c'était une boîte qui faisait des thermostats, des détecteurs de fumée, des choses comme ça. Bon, là, maintenant, on arrive aux caméras de vidéosurveillance. Quoi. Voilà. Donc... un autre débat à venir.
Exactement.
Sur le sujet.
Alors ensuite... Agnès, tu voulais parler de Spark the Change.
Spark the Change, ouais. Alors, j'ai découvert cette conf. Je connais pas, je vais pas y aller. Mais s'il y a quelqu'un qui va, j'en veux bien un retour. C'est une conférence qui a lieu à Londres les 3 et 4 juillet. Et le thème de la conférence, c'est assez rigolo, c'est crée l'organisation auquel tu crois, quoi. Voilà. Donc, ça touche les orgas de conf, les orgas de boîte, etc. Et c'est proposé par des gens qui bossent de manière un peu particulière et voilà, qui me branchent bien, notamment GameV, c'est une petite start-up qui est possédé que par ses salariés, ce qu'en France on a sous le nom de sous forme coopérative, etc. Ce qu'en France on a sous le nom de SCOP souvent, où il y a pas de manager, une méthode de management très horizontale, voilà. Et du coup, cette conférence, c'est comment on peut arriver à mettre en place une organisation auquel on croit et beaucoup plus horizontale que beaucoup d'organisations qu'on voit. Voilà. Donc ça touche tout, hein, comme je l'ai dit, à la fois les formats de boîte que les formats d'event, etc. Et il y a une interview sur InfoQ de Hélène Walton, parce qu'il y a, c'est une fille qui bosse pas mal sur sur cette conf là, et qui explique un petit peu pourquoi ils ont monté cette conférence et de quoi ils vont parler. Et derrière, il y a beaucoup de choses autour de Lean, des mouvements Lean, UX, etc. Voilà. Mais à regarder, parce que je trouvais ça assez assez rigolo. Voilà.
Bah, ça a l'air d'être quelqu'un... assez intéressant, d'ailleurs.
Ouais, c'est clair. Exactement. Et sinon, il y a eu l'USI aussi, récemment. Vous y êtes allées,
ouais,
les filles?
Ouais, on y était avec Amira, effectivement. C'était la semaine dernière. Alors, pour rappel, c'est le rendez-vous des boss et des geeks. Donc, au programme, il y avait du big data, des objets connectés, du digital et du management. Hein. Je sais pas. On a fait plusieurs interviews.
Ça s'est déroulé. Ouais. Ça s'est déroulé au Palais Brongniart, faut rappeler. Et l'année prochaine, ça sera au Carrousel du Louvre.
Ah cool. Ouais. D'accord.
Alors,
tu disais qu'on avait fait des interviews.
Oui, effectivement, ouais, on a interviewé plusieurs speakers. Donc, les interviews sont en cours de publication. Donc, vous allez les voir très prochainement sur notre blog. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. C'était très inspirant de mon côté, mais...
Voilà, on a essayé d'interviewer des profils pas forcément IT, mais un peu divers. Donc, on a eu la chance d'interviewer Patrick Dixon, un futuriste qui travaille pour Global Change. Donc, il nous a parlé, en gros, de l'agile leadership, comment garder une longueur d'avance sur la concurrence, comment faire évoluer ses projets en interne, etc. Donc, c'était assez intéressant. Donc, je vous laisserai découvrir quand même l'interview.
On a
eu aussi des sujets. Vas-y.
Bah oui, on a aussi interviewé Olivier Grisel. Donc, ça, c'était une présentation plutôt technique sur du machine learning, du big data. D'ailleurs, elle a été publiée aujourd'hui. Et puis ensuite, alors là, c'était deux interviews avec deux femmes, moi, je dirais, d'exception. Vraiment inspirantes et passionnées par ce qu'elles font. Donc, tout d'abord, Nancy Duarte, qui nous a parlé de comment transformer nos histoires.
Nos présentations plutôt en histoire.
Ouais.
Donc c'est Nancy, elle est très connue. Elle a fait beaucoup d'études effectivement sur les diverses présentations mondialement connues. Donc elle a pris l'exemple, par exemple, de Steve Jobs, tout ce qui est IT. Mais elle a étudié aussi des discours, notamment.
Il y avait Nelson Mandela de politiciens.
Exactement.
En fait. Elle s'intéressait à la structure des discours pour essayer de comprendre aussi. La construction d'un discours va avoir, pour améliorer les impacts, en fait. Essayer d'analyser la façon dont les gens avaient amené leurs idées pour que ce soit plus parlant et pour que les messages passent mieux. Donc voilà.
Donc c'est un peu le teaser, mais je vous conseille fortement d'aller écouter l'interview qui sera postée sur le blog Duchesse.
Et quand vous dites présentation, c'est les présentations qu'on doit faire, les talks, tout ça, c'est ça?
Oui.
En général, quel que soit le type de présentation.
Exactement.
Même
D'accord.
technique.
Exactement. D'accord. Donc en fait, elle nous a donné des conseils pour essayer de trouver les bons mots, de se poser les bonnes questions.
En fait, en gros, dans son étude, il y a une rythmique à respecter pour accrocher, pour garder en fait l'auditoire aussi concentré et intéressé par notre présentation. Donc il y a vraiment des CEO à respecter, une rythmique, etc. Quel que soit le sujet à traiter, que ce soit politique, technique, même si on parle de cuisine, en fait, c'est impressionnant.
Ouais.
Moi, je vous laisse découvrir l'interview. Quoi.
Et puis, dernière belle rencontre, vraiment une belle rencontre, c'était avec Yael Gabisson sur du storytelling. Alors, elle nous a parlé de contes, elle nous a parlé d'histoire. Et là, pareil, en fait, elle a parlé aussi de management. Elle nous a expliqué comment être un bon manager, entre guillemets. Enfin, elle a essayé de nous donner des techniques, des petits trucs pour s'améliorer. Je sais pas si...
Après, effectivement, ce qu'il faudrait retenir de cette rencontre-là, c'est que Yael, ce qu'elle a essayé de mettre en place, c'est plutôt ce qu'elle fait plutôt comme service, c'est du coaching, un peu féerique, je dirais, parce que ça se base sur des personnages d'histoire avec
moi,
des héros.
Moi, je suis coach féerique.
Non, mais si.
Je suis coach
exact.
Féerique.
On a parlé des héros.
Il y a des héros, il y a une quête, il y a un méchant,
princesse.
Il y a un ordinateur, etc. Voilà.
D'accord.
Et donc
d'accord.
La vision, elle est assez rigolote, assez légère, disons. pour essayer de motiver un peu les organisations, les teams, les managers, etc., à mieux communiquer, mieux s'organiser en interne. Donc c'est une vision intéressante. C'était curieux, moi je découvrais ça, ouais. Donc c'était assez
très belle interview, elle sera publiée mercredi.
En tout cas, ça a l'air de vous avoir.
Ah, c'était génial. C'était vraiment génial.
Ok.
Pour finir, il y a les CFP, on va parler des call for paper qui sont ouverts.
Allez.
Ouais. Alors qu'ils se lancent pour la DrunCon.
Bah, vas-y, t'es lancé là.
Ok, bon bah le CFP de la DroidCon Paris est ouvert. Donc cette conférence, c'est le rendez-vous des passionnés d'Android. Ça aura lieu le 22-23 septembre à Paris. Voilà. Ensuite, je continue. NipConf. Alors NipConf, c'est une première édition de cette conférence. C'est une conférence qui vient du réseau Nipcast. Je ne sais pas si vous connaissez les podcasts. Alors l'idée de la conf, c'est de parler de technologies émergentes. Alors apparemment, ça parlera d'imprimantes 3D, ça va parler de drones, d'objets connectés. L'idée, en fait, c'est de s'adresser là à un public qui est plutôt passionné d'innovation. Donc ce sera pas forcément un public purement technique. Et cette conférence aura lieu le 24 octobre à Lausanne.
Ouais, moi elle m'a bien fait rigoler, c'est... cette conf. Pareil, je connaissais pas et...
Ça change un peu, ouais. C'est une autre approche, ouais, en fait.
Ça a l'air assez frais.
Oui, exactement.
Ouais, c'est bien un truc qui me tenterait, ça. Alors, toujours en Suisse, on a SoftCheck aussi. Donc, le CFP est ouvert. SoftCheck, c'est une conférence qui a lieu le 23 et le 24 octobre à Genève. Vous avez jusqu'au 14 juillet pour envoyer vos propositions. SoftCheck, c'est quand même la quatrième édition. Ils ont sauté une année, donc ça fait 5 ans qu'ils proposent des confs. Et c'est vraiment un mix de plein de choses. On y parle agile, Java, techno Microsoft, développement web, mobile, big data NoSQL. On parle même de programmation fonctionnelle, de Ruby, de gamification, d'intelligence artificielle et de robotique. Enfin voilà, c'est assez hallucinant les sujets qu'il y a. C'est pas une grosse conf, voilà, c'est des formats de conf que j'aime bien. Il y a 300 personnes, 80 orateurs. Enfin voilà, c'est une conf qui peut être sympa. Même si vous voulez pas proposer un sujet, vous pouvez simplement acheter votre place et y aller. C'est plutôt cool.
Ok. Voilà. Ben on reste vers la Suisse, enfin à Lyon, on va dire, avec Blend. Donc Blend, c'est une conférence sur le web. Alors il y a des sessions. Alors là, ça touche un petit peu tout le monde aussi. C'est pas purement technique. Il y aura des sessions techniques, mais aussi du design, du marketing web, du business et de la recherche. Et c'est à Lyon les 29 et 30 octobre. Et ils cherchent encore des speakers.
Tout à fait. On a jusqu'à fin 30 juin, je crois.
Et voilà. un autre sujet, DevFest. Nantes. Alors DevFest, pour ceux qui connaissent pas, c'est des conférences qui sont organisées via Google. Donc il y a des sessions dans l'année. Donc là, il y a 2 sessions. Il y en a une en septembre et puis une deuxième sur octobre-novembre. Donc l'idée, c'est d'organiser plein d'événements DevFest dans le monde entier. Nantes a lancé son Call for Paper. Alors ce sera le 7 novembre à la Cité des Congrès. Et là, ils recherchent des speakers sur le thème du cloud, mobile, web et discovery. Avec, évidemment, des technos Google. Et pour le CFP, c'est ouvert jusqu'au 15 septembre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un truc à présenter.
Donc là, on va aller plutôt vers Rouen. Et je vais rappeler la conférence gratuite. Là, vous aurez ni à acheter un billet, ni quoi que ce soit. Pas d'excuses. C'est les codeurs en scène qui se déroulent le 27 novembre à Rouen. Donc les thématiques sont Java, de l'agile, du web et de l'innovation. Donc, codeur en scène, vous pouvez défricher des sujets comme les bases de données NoSQL, l'histoire du web, Java 8, les objets connectés. Donc, et d'ailleurs, actuellement, il y a le Call for Paper qui est ouvert, mais au pire, voilà, si vous n'avez pas de sujet à soumettre, etc., vous pouvez venir, c'est gratuit.
Ouais, et puis dernière news, on laisse le meilleur pour la fin. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est une conf que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je dis ça. C'est le Jog Summer Camp, voilà, qui a lieu à La Rochelle le 19 septembre. Alors pourquoi c'est une conf que j'aime bien ? Alors c'est une conf déjà qui est gratuite. Voilà, une conf où il y a moins de 200 personnes, donc c'est plutôt sympa, on peut parler un peu à tout le monde, aux speakers, aux participants, tout ça. Ça a lieu dans un endroit qui est quand même plutôt cool parce que c'est La Rochelle. Voilà, et c'est organisé par des gens super sympas, voilà, par des gens du Jog Summer Camp du Jog de La Rochelle, des gens qui font aussi partie de la société qui s'appelle Serly. Voilà, Jérôme et Oriane. Donc, je trouve que c'est voilà une conf qui est vraiment à faire. Il y a donc c'est principalement des speakers français. Il y a plein de gens qui y sont passés, hein, voilà, qui arrivent à avoir des gens vachement intéressants. Et vous avez jusqu'au 31 juillet pour proposer un sujet. Voilà, donc des filles, si vous avez envie de lancer, je vous conseille d'essayer de commencer par Jackson Orcamp. Il y a un accueil en plus des speakers qui est hallucinant. Il loue un espèce de gîte, etc. Enfin, c'est incroyable. Et pour les participants, c'est aussi assez incroyable. Il y a une bouffe le midi qui... La conf est gratuite et la bouffe du midi, elle est à tomber par terre. Je dis pas ça.
Ouais. Pas d'excuses, là, voilà.
Je dis pas ça parce que c'est pas... Il y a pas que ça à retenir de la conf, mais voilà. J'arrêterai là, mais je pourrais continuer longtemps.
Alors, juste peut-être un rappel. Scala IO, juste pour dire que bah, le CFP est toujours ouvert. Et voilà. Donc c'est techno Scala, mais pas que. Je crois qu'il y a un thème aussi diversité. Et puis bah, des langages qui sont fonctionnels aussi. Voilà.
Ok. Cool. On a halluciné. Enfin, j'hallucine sur le nombre de confs.
Ouais, il y a pas mal de trucs.
Hein. C'est ce que je regarde aussi.
C'est cool. On peut faire plein de choses. À la rentrée et même avant. Du coup, bah écoutez, on arrive sur la fin d'épisode.
Ouais.
Voilà.
C'était cool.
Ouais, c'était cool.
Oui.
Bon, c'est une première. On n'était pas super détendus au début et tout. Faut nous excuser. On ne sait pas faire. Voilà. On n'a pas encore fait beaucoup de blagues.
Non, hein, on
n'a
pas.
Ah, non, pour l'instant.
Ouais, on n'est pas aussi détendus que certains. Je suis très tendue.
Ouais, on se retrouve pas souvent comme ça ensemble, lors d'events.
Ouais. C'est clair. Non, mais on s'améliorera.
Faut que Guillaume nous file les billes, là. Ces blagues.
Ouais,
c'est de l'astuce.
Faut qu'il nous coach. Guillaume,
voilà.
Tu nous coaches.
Voilà.
C'est un appel. On clôturera l'épisode comme ça. Et puis, bah, merci à tous. Merci à tous.
Bah, merci.
Merci, ouais.
Et puis, à très
bientôt. À bientôt.
Au revoir.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.